Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive et par le mont Sinin et par cette cité sûre très certainement nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 11 mai 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. Visite de l'émir du Qatar en Iran, l'aube de la fin des crises régionales. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. À la une de ce journal, la neutralisation des sanctions par les développements économiques est la stratégie clé de l'Iran. Déclaration ce matin du chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian. Le ministère iranien de renseignement a arrêté deux ressortissants européens pour avoir organisé les émeutes. Et puis les forces israéliennes tuent une journaliste travaillant pour la chaîne de télévision panarabe Qatari Al Jazeera en Cisjordanie occupée. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que la neutralisation des sanctions par les développements économiques et la répartition équitable du système de paiement des subventions constituent les stratégies clés du pays, faisant référence au plan de transformation économique et aux négociations pour lever les sanctions. Hossein Amir Abdollahian a écrit dans un tweet mercredi 11 mai: les deux stratégies de neutralisation et de levée des sanctions sont poursuivies. Protéger le pays par les développements économiques et la répartition équitable du système de subventions constituent les stratégies clés de l'Iran. Les pourparlers pour la levée des sanctions se poursuivront dans la bonne direction, en respectant les lignes rouges de l'Iran, pour parvenir à un bon accord durable et fort, a-t-il ajouté. Le chef adjoint de la politique étrangère de l'Union européenne et coordinateur de l'Union européenne pour les pourparlers de Vienne a annoncé mardi 10 mai dans un tweet se rendre en Iran afin de discuter des lacunes restantes sur les négociations concernant le nucléaire iranien. Selon le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, Ali Shamkhani, les progrès réalisés dans les négociations de Vienne pour lever les sanctions injustes, qui sont suivis par la visite du responsable adjoint de la politique étrangère de l'Union européenne à Téhéran, coïncidant avec le plan de transformation économique, sont une indication de la prise de conscience du gouvernement iranien des questions politiques et économiques les plus importantes du pays. L'Iran a appelé la Belgique et deux autres pays européens à répondre aux objections concernant la condamnation d'un diplomate iranien pour un prétendu complot d'attentat à la bombe que Téhéran juge illégal. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que Téhéran poursuivrait ses efforts juridiques pour aider à libérer Assadollah Assadi, diplomate à l'ambassade d'Iran en Autriche. Il a été détenu en Allemagne et condamné à 20 ans de prison en Belgique en 2018 après avoir été accusé d'avoir organisé un attentat à la bombe contre le groupe terroriste anti-iranien OMK. Le porte-parole a déclaré que toute l'affaire était un scénario mis en scène par la milice armée terroriste OIMK pour propager l'iranophobie. Il a réitéré la position de l'Iran selon laquelle la détention, le procès et la condamnation du diplomate constituaient tous des violations de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Mardi, un tribunal belge a rejeté les recours de trois Iraniens accusés d'avoir participé au complot. Sachez également que le ministère iranien du renseignement a arrêté deux ressortissants européens, je vous le disais en titre, pour avoir organisé les émeutes. Le ministère iranien du renseignement a fait part de l'arrestation de deux ressortissants européens pour avoir organisé les émeutes dans le pays. Selon les relations publiques du ministère, deux ressortissants européens qui sont entrés dans le pays dans le but d'abuser des revendications légitimes de certaines classes et couches du pays et de changer la direction des revendications normales en chaos, désordre social et déstabilisation de la société ont été identifiés et arrêtés par le ministère iranien du renseignement. Sur la base des interceptions transfrontalières du ministère iranien du renseignement, les deux ressortissants européens étaient à la pointe de la surveillance du renseignement du ministère. Ces deux ressortissants européens, depuis leur arrivée en Iran jusqu'à leur arrestation, tous leurs plans et rencontres secrets, leurs couvertures utilisées et les lignes d'opération destructrices transférées à certains centres concernés, y compris une organisation illégale intitulée « Conseil de coordination des syndicats de personnes culturelles », ont été entièrement surveillés et documentés. L'actualité régionale, les forces israéliennes tuent un journaliste travaillant pour la chaîne de télévision Al Jazeera basée au Qatar, en Cisjordanie occupée. Shirin Abu Akleh a été tuée d'une balle dans la tête alors qu'elle couvrait un raid de l'armée israélienne sur la ville de Jenin. Elle portait un gilet pare-balles bleu clairement marqué « Presse » au moment du tournage. Abu Akleh était une journaliste palestinienne chevronnée pour la chaîne en langue arabe d'Al Jazeera. Le diffuseur a qualifié son assassinat de crime horrible en violation des normes internationales. Le Qatar a condamné l'incident comme un terrorisme israélien parrainé par l'État. Le mouvement de résistance palestinien, le Hamas, affirme que le meurtre d'Abu Akleh met à nu la nature terroriste et violente du régime d'occupation. Selon le ministère palestinien de la Santé, un autre journaliste, Ali Samoudi, a été blessé lors de l'attaque. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est à son 76e jour, mais les États-Unis affirment que le conflit pourrait se transformer en une guerre d'usure. La directrice américaine du renseignement national dit qu'elle ne voit aucune voie à suivre pour les pourparlers de paix entre Moscou et Kiev, du moins à court terme. Les responsables américains prédisent également que les combats pourraient prendre des tournures imprévisibles au cours des prochains mois. Sachez d'autre part que la Chambre des représentants des États-Unis approuve une aide financière et militaire supplémentaire de 40 milliards de dollars à l'Ukraine pour l'aider dans la guerre en cours avec la Russie. Le programme d'aide qui doit être approuvé par le Sénat est supérieur à ce que le président américain avait initialement demandé aux législateurs. Réagissant aux évolutions, le Kremlin a également averti que l'armement de l'Ukraine pourrait conduire à une confrontation directe entre la Russie et l'Occident. L'Ukraine a déclaré qu'elle suspendrait d'autre part l'utilisation d'un point de transit pour une partie du gaz russe à destination de l'Europe et déplacerait le flux vers un nouveau point. La Russie affirme que cette décision est inessentielle et impossible. On se quitte avec la 33e foire internationale du livre de Téhéran qui s'est ouverte avec la participation de 32 pays. La 33e édition de la Foire internationale du livre de Téhéran a été inaugurée mardi soir après 2 ans de fermeture causée par la pandémie de COVID-19. L'événement a eu lieu en présence de Mohamed Mehdi Esmaili, ministre de la Culture et de l'Orientation islamique, Mohamed Wassam Al-Murtada, ministre de la Culture du Liban, administrateur culturel et des éditeurs de 30 pays dans la grande mosquée Imam Khomeini. 170 éditeurs de 32 pays, dont la Suisse, l'Inde, Hong Kong, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, la Chine et la Russie, participent à cette édition. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Reste avec nous. Merci. Visite de l'émir du Qatar en Iran, l'aube de la fin des crises régionales. L'expert iranien des affaires d'Asie occidentale a déclaré que les ennemis transrégionaux cherchaient à semer la discorde dans la région, ajoutant que la visite de l'émir du Qatar à Téhéran pourrait être le début de la fin des crises régionales. Dans une interview accordée à l'IRNA, Seyed Reza Sadr al-Husseini, expert iranien des affaires d'Asie occidentale, faisant référence à la visite de l'émir du Qatar à Téhéran cette semaine, a déclaré « Considérant que la priorité de la politique étrangère du gouvernement Raïsi est de développer les relations avec les pays voisins musulmans et non musulmans, les relations qui se sont établies en politique étrangère au cours des derniers mois repose sur cette feuille de route et constitue la politique stratégique de la République islamique d'Iran. L'expansion des relations politiques, économiques, commerciales et surtout énergétiques avec le Qatar peut être efficace pour maintenir et renforcer la paix et la sécurité dans la région, a-t-il ajouté. Récemment, le président iranien Ebrahim Raïsi a effectué une visite au Qatar qui a été officiellement accueillie au plus haut niveau possible. Au cours de cette visite, des accords ont été conclus dans tous les domaines, de sorte que l'émir du Qatar se rendra à Téhéran plus tard cette semaine en réponse à la visite de notre président et au suivi des accords et contrats signés entre Téhéran et Doha, a indiqué cet expert. En effet, toute mesure prise pour mettre en œuvre les accords signés peut contribuer à établir la sécurité, promouvoir la paix et empêcher la présence de pays transrégionaux dans la région stratégique du Golfe Persique, a-t-il précisé. Notant que la visite de l'émir du Qatar à Téhéran témoigne la bonne volonté de certains pays arabes envers l'Iran, Sadr al-Husseini a poursuivi « Des ennemis transrégionaux tentent de répandre la question des différences ethniques perses-arabes et la présence de l'émir du Qatar peut certainement être une ligne d'invalidation sur cette ligne irrationnelle et irréelle de pays transrégionaux. Pour cet expert iranien, l'un des points importants à considérer lors de la visite de l'émir du Qatar en Iran concerne les crises qui existent dans le monde islamique. Les deux pays peuvent être ainsi considérés comme un point de départ pour mettre fin aux crises avec leur influence dans différentes parties du monde musulman. Compte tenu des points de vue communs de l'Iran et du Qatar sur la question de la Palestine, la proximité des deux pays peut aider la Palestine à réaliser ses idéaux, y compris la libération d'Al-Quds, a-t-il conclu. L'émir du Qatar se rendra demain 12 mai en Iran pour suivre les accords et élargir les relations entre les deux pays, en particulier la coopération bilatérale pour la Coupe du monde de football 2022.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Le débat dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur les derniers développements relatifs à l'Ukraine, et surtout en fait de cette passe d'armes entre la Russie et le régime israélien. La Russie qui dit désormais ouvertement que des mercenaires israéliens sont présents sur le territoire ukrainien pour combattre l'armée des Russes. Je vais dire quelque chose que les politiciens israéliens ne veulent sans doute pas entendre, mais peut-être que cela les intéressera. En Ukraine, des mercenaires israéliens sont aux côtés des extrémistes d'Azov, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Madame Maria Zakharova. Ces propos interviennent suite, si vous voulez, à cette récente déclaration du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a suscité la colère des autorités israéliennes. Sergueï Lavrov, qui l'a en fait affirmé, c'était dimanche, qu'Adolf Hitler avait du sang juif. Et dans le même temps, la Russie a annoncé que son armée avait simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave russe de Kaliningrad, située entre la Pologne et la Lituanie, deux pays membres de l'Union européenne. Et s'agissant de la France, il y avait cette déclaration du président français Emmanuel Macron, c'était hier, de jeudi 5 mai, comme quoi en fait plusieurs centaines de millions de dollars d'aide humanitaire supplémentaires vont être accordés pour l'Ukraine. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas un juriste français spécialiste des questions internationales qui va en fait nous rejoindre dans les minutes à venir. Mais pour commencer notre émission, on va partir tout de suite à Moscou pour rejoindre un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Fabrice Beurre. M. Beurre, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, toujours un plaisir d'être sur PSP.
Monsieur Beurre, je viens de lancer le sujet, les derniers développements relatifs à l'Ukraine, très particulièrement cette passe d'armes entre la Russie et le régime israélien. Quelle évaluation portez-vous sur ce qui se passe actuellement entre Tel Aviv et Moscou, Monsieur Beurre?
Tel Aviv a tiré un peu trop sur la corde. Cela a commencé depuis, on va dire, si on prend simplement les derniers événements sur les dernières années, avec l'affaire de l'avion russe détruit du fait de l'action de la nation israélienne qui s'était cachée derrière, donc ça de la civile. Et puis dernièrement, on peut en voir un élément positif, puisque le Premier ministre israélien avait fait en fait la navette, la liaison entre Moscou et Kiev, et semble-t-il avait apporté une possibilité de dialogue. Sauf que ça n'a pas dû plaire, évidemment, à une partie de la classe politique israélienne, en particulier du protecteur américain. Et aujourd'hui, on voit bien le retour, les déclarations officielles israéliennes, où il y a aide, entre guillemets, humanitaire, aide militaire et condamnation de l'activité russe en Ukraine. Alors même que, pour les Russes surtout, c'est une double trahison, déjà certainement la parole donnée d'un point de vue diplomatique lors de ces derniers échanges, mais surtout vis-à-vis des personnes et des groupes qu'ils combattent en Ukraine, à savoir ces bataillons nazis, Azov, Haïdar et autres compagnies. Je précise que malheureusement, ça a été diffusé dans l'armée ukrainienne, puisque beaucoup des officiers de l'armée ukrainienne viennent de ces bataillons. Ce qui explique beaucoup d'ailleurs des activités criminelles que mène aujourd'hui même l'armée ukrainienne. Et donc, pour revenir sur votre question, plus simplement, que peut-on dire ? Peut-on dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la Russie a décidé de mettre ils mettent les pieds sur la table. C'est-à-dire que ça suffit, cette hypocrisie. Et de dire ce qu'il faut dire. Lorsque vous avez des mercenaires israéliens qui sont des anciens militaires, ils ne partent pas par hasard, ils ne partent pas sans l'autorisation de leur gouvernement, encore moins de l'armée. Ils partent effectivement en mission. Et en plus, à côté des bataillons donc d'Azov et autres, qui sont on va dire la pointe de la russophobie et des gens qui mènent des crimes contre les populations russophones en Ukraine, c'est une provocation, on va dire, suprême. C'est la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Donc, maintenant, on dit la vérité. Alors, ça gêne. Ça les gêne, les histoires des affiliations d'Hitler. Mais on va parler des affiliations d'Ashman, qui avait une grand-mère aussi juive. Et alors, c'est une réalité. Est-ce que ça les gêne qu'on dise que le Bétard a travaillé avec les nazis jusqu'en 1944-45? Et ils vont dire, beaucoup vont dire, et beaucoup de sionistes d'ailleurs vont en parler, en disant que c'est une horreur, ce n'est pas vrai. Pourtant, ce sont des éléments qu'on peut trouver dans l'Institut Jabotinsky à Tel Aviv. Faudrait-il encore qu'ils étudient l'histoire même du sionisme, leur propre histoire? Ce serait déjà beaucoup. Rappelons que jusque dans l'Allemagne nazie, il y avait l'interdiction de tout mouvement de jeunesse qui n'était pas la jeunesse hitlérienne, sauf le Bétard, qui avait quoi comme chemise? Une chemise brune, et comme drapeau, celui d'Israël aujourd'hui. Donc on peut aller très loin s'ils veulent, et la Russie peut aller très loin si on le veut, parce que les archives de l'Allemagne nazie, à Berlin, on va dire qu'ils ont été récupérés par Moscou. Donc s'ils veulent qu'on aille plus loin, on va aller plus loin. Il n'y a aucun problème, mais ce n'est pas à leur avantage. Donc il serait temps, et c'est en cela que vous avez ces mises en demeure publiques de la diplomatie russe, de dire si vous voulez aller plus loin, il n'y a aucun souci, on peut y aller maintenant, vous vous calmez. Vous sortez du jeu. Sinon, si vous ne sortez pas du jeu et que vous intervenez dedans, vous donc faites partie des belligérants. Si vous êtes partie des belligérants, à ce moment-là, on agit comme tout belligérant, on rend les coups. Et là, les coups, ça peut être plus important, puisque ce ne sera pas des coups militaires qui seront rendus. Ce seront des coups au mythe de la fondation de l'État d'Israël et des premiers sionistes. Et ça peut faire très mal. Et je pense qu'à Tel Aviv, ils ont intérêt, comme à New York ou comme à Paris, au quartier Saint-Germain-des-Prés, et ils ont intérêt à réfléchir beaucoup à cette question-là, parce que je pense que ça peut faire du mal. Si tant est qu'aujourd'hui, dans le bloc occidental, ils mettent de la censure, je crois que dans le reste du monde, les gens sont prêts à entendre la vérité.
On va partir tout de suite à Damas pour rejoindre Maître Arnon Develé. Maître Develé, vous avez entendu M. Beber. Vous, que pensez-vous de cette, pour employer l'expression de M. Beber, de cette mise en demeure publique et ouverte, si vous voulez, de la Russie au régime israélien? Et si j'ai bien suivi, en fait, M. Beber, à Moscou, on a cette impression que le régime israélien a franchi la ligne rouge.
Le régime israélien est coutumier de franchir les lignes rouges. Il semble penser qu'il y a un standard de conduite pour eux et un standard de conduite pour les autres. Sauf que dans le contexte de cette façon de faire, si je puis dire, vis-à-vis des Russes, pour le coup, je crois qu'ils se sont trompés d'interlocuteur. Autant il a toujours été possible d'exercer une forme de chantage moral sur les gouvernements occidentaux concernant certaines questions, eu égard au fait que ces sujets étaient figés et faisaient partie d'un certain narratif qui n'avait pas vocation à être remis en cause ou même discuté de manière critique. Autant on s'aperçoit que lorsqu'il s'agit d'imposer ce standard aux Russes, le jeu s'arrête. Les Russes n'ont absolument aucune raison, aucune leçon à recevoir en termes de lutte contre le fascisme ou de lutte contre le nazisme. Ils ont payé le prix fort, à savoir 27 millions de vies. Et comme le soulignait M. Bohr, ils étaient les premiers à libérer les camps et ils étaient les premiers à Berlin. Donc ils ont effectivement énormément de matériel en leur possession. Et que si le régime de Tel Aviv venait à essayer de pousser l'argumentaire dans ce sens-là et d'épouser cette notion sur laquelle les nazis quelque part d'aujourd'hui. Et on a entendu des termes juridiques qui ont quand même des connotations extrêmement marquées, telles que génocide. En ce qui concerne les agissements présumés des Russes dans l'est de l'Ukraine, on commence à comprendre où cette petite musique nous emmène. Et dans quel sens il semblerait que les Israéliens semblent se positionner, parce que quand on commence à laisser entendre que les dirigeants, la direction russe se serait rendue coupable d'exactions qui relèvent quelque part de la jurisprudence Nuremberg, on peut penser que quelque part l'objectif c'est d'accompagner cette idée de changement de régime et de juger ensuite au lieu de l'histoire, en tout cas d'une certaine vision de l'histoire, l'action militaire russe actuelle. Donc tout ça, c'est un petit peu quelque chose qu'il faut lire entre les lignes, mais les signes ne trompent pas, la sémantique choisie ne trompe pas, et je pense que dans ce contexte-là, la diplomatie russe a été extrêmement ferme, elle a été très claire quant au danger que cette escalade sémantique et donc diplomatique peut générer si Tel Aviv continue dans cette direction. Maintenant, les faits sont ce qu'ils sont. Le principal financier du régime kiévien se trouve à vivre en Israël. Il a rapatrié tous ses milliards là-bas. On peut penser que le quiproquo concernant cette rapatriation et cet exil à Tel Aviv, c'est qu'il soit en mesure de continuer à financer effectivement les mercenaires qui s'y rendent. Et ce faisant, quelque part, ça laisse entendre que le régime sioniste a choisi son camp. On peut rajouter à ça que Washington, probablement, met la pression supplémentaire, parce que c'est comme ça que Washington voit les choses. Et à partir de là, ça va être de plus en plus difficile pour le régime sioniste d'essayer de continuer à jouer ce jeu d'équilibriste sans qu'il ne s'y brûle les ailes, si je puis dire.
Monsieur Berg, je viens de le dire tout à l'heure, la Russie a annoncé que son armée avait simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave de Kaliningrad. Et cette annonce faite par l'armée russe intervient après, si vous voulez, ce rapport qui avait été diffusé par certains médias, y compris dont américain, comme quoi en fait l'armée ukrainienne avait tué en fait des généraux russes grâce aux aides en matière de renseignement Washington, des États-Unis. Monsieur Berg, quel est d'après vous le message de ces exercices, si vous voulez, de ces tirs de missiles à capacité nucléaire de la part de la Russie, s'il vous plaît?
Alors, deux réponses. La première, la propagande de Kiev est coutumière de vivre dans un monde virtuel. Le métaverse n'existe pas encore, mais chez eux, il est bien présent hein, dans leur propagande à Kiev, puisque si on les écoute, il y a plus de tanks dans l'armée russe, tellement qu'ils en auraient détruit. Ça en devient ridicule. Donc ce qui vient de Kiev n'a pas tellement d'intérêt en réalité. Quand bien même, effectivement, certainement qu'il y a des pertes, si tant est qu'il y ait eu les pertes qu'il déclare, qu'il nous explique pourquoi à ce moment-là, il recule partout. Les Russes doivent être certainement des super-hommes, certainement. Maintenant, cela étant dit, moi je ne reprends jamais ce qui vient de Kiev, surtout venant d'un président qui était avant un clown. Aujourd'hui c'est un clown triste, c'est un clown criminel. Mais maintenant, pour revenir sur Kaliningrad, c'est en réponse à l'attitude de l'OTAN. Alors, il y a l'attitude officieuse qui est celle des généraux que nous voyons, pas qu'en France dans les médias, mais si on parle de la France, qui viennent, et dont certains officiers français, peut-être à la retraite, et qui disent qu'il faut frapper la Russie avec des frappes nucléaires préventives. Ces gens-là sont des fous. Et lorsque la Russie entend ça, la Russie, elle, ne prend jamais des déclarations à la légère. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce qu'il faut pour prévenir ces choses. Et elle a bien indiqué, surtout à la Pologne, qui est de plus en plus belliciste dans la région, que s'il voulait jouer ce petit jeu, Kaliningrad est prêt à jouer son jeu dans le cadre d'une réponse symétrique, cette fois-ci, à une attaque qu'il voudrait faire, puisqu'on a entendu même des généraux polonais déclarer qu'il fallait envahir évidemment Kaliningrad et qu'il fallait même prendre la Biélorussie et tout l'Ouest ukrainien d'ailleurs pour faire une grande Pologne. Ceci étant dit, on n'est pas très loin de la réalité puisque vous allez voir, et certainement dans quelques semaines, il y a une forte possibilité que les Polonais puissent intervenir dans l'Ouest ukrainien officiellement pour protéger l'invasion russe, alors que les Russes ne s'intéressent absolument pas à l'Ouest ukrainien qui n'a d'ailleurs même jamais fait partie d'un point de vue historique de l'Empire russe. Donc simplement pour en fait prendre un morceau, on va dire, de l'Ukraine. Donc la réponse à Kaliningrad de l'état-major russe, c'est simplement de dire si on ne bluffe pas. La Russie, lorsqu'elle déclare des choses, elle ne bluffe pas. Ce qu'elle dit, elle va le faire. Donc elle montre qu'elle peut faire, qu'elle peut réagir et qu'à ce petit jeu, l'OTAN ne va pas gagner. À Kaliningrad, il y a les moyens de la politique jusqu'à la Pologne, jusqu'à la frontière allemande de l'offensive militaire russe, ils en ont envie. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas l'objectif russe. L'objectif russe, ça ne concerne qu'une partie de l'Ukraine. Mmh. Ça concerne l'OTAN qui doit s'arrêter. Et donc, c'est un message envoyé à l'OTAN, comme quoi, si vous voulez jouer, nous sommes prêts, nous avons les moyens qui sont déjà prédisposés, puisque beaucoup, et c'est ça qui est grave, c'est que beaucoup de ces généraux, alors ils sont à la retraite peut-être, mais ils ont une influence, et on s'imagine que certainement ceux qui suivent, comme toujours dans cette société occidentale, où ceux qui arrivent à la suite sont généralement d'un niveau inférieur, sont plus médiocres que leurs prédécesseurs, qu'ils aient la même pensée. Et pour éviter qu'ils aient la même pensée, il faut de temps en temps leur rappeler à la réalité, puisqu'ils en arrivent à croire à leur propre surpuissance. Je terminerai là-dessus, quand on voit des experts sur les médias français qui ne savent pas placer Donetsk, qui ne savent pas placer le Donbass, qui confondent même certains la mer Noire avec la Caspienne, c'est affolant du niveau que peut avoir ces gens-là qui sont qui décident certainement des décisions au niveau de l'état-major français. Donc, de temps en temps, une petite piqûre de rappel, les piqûres, ils aiment bien ça en ce moment en Europe de l'Ouest, donc une petite piqûre de rappel fera du bien, et celle-ci, ces missiles à capacité nucléaire, effectivement, sont une piqûre de rappel, puisque je rappellerai que les missiles en question dont on parle à Kaliningrad peuvent avoir une charge classique, comme peuvent porter une charge nucléaire. C'est-à-dire que si un missile est tiré, ils ne savent pas ce qu'ils vont se recevoir sur la figure. En cela, déjà cela est une dissuasion, et espérons que ce sera compris par les docteurs Follamour de l'OTAN, et j'espère des Européens, parce que les Américains, une guerre en Europe, ça les arrange, mais les Européens, c'est suicidaire.
Monsieur Maître de Velay, la France va porter son aide globale à l'Ukraine à 2 milliards de dollars contre 1,7 milliard jusqu'à présent, soit 300 millions de dollars supplémentaires, a annoncé Emmanuel Macron, président français, dès jeudi 5 mai 2012, dans une vidéo diffusée lors de la conférence internationale des donateurs. De ce nouvel apport ne concerne pas le volet militaire, a précisé en fait l'Élysée. Comment expliquez-vous cette prise de position de Paris dans ce contexte marqué, on vient de le dire, par, si vous voulez, cette passe d'armes entre le régime israélien et, si vous voulez, la Russie, entre le camp occidental et la Russie, qui est maître de volée?
Écoutez, la première chose qu'on peut se poser comme question, c'est pour un pays dont François Fillon disait dès 2008 qu'il était à la tête d'un État en faillite, on a du mal à comprendre comment le gouvernement français actuel peut générer des centaines de millions jusqu'à, effectivement, comme vous le soulignez, 2 milliards d'euros en assistance à un pays qui non seulement ne fait pas partie de l'Union européenne, mais ne fait pas partie de l'OTAN. Donc il n'y a absolument aucune obligation légale de se faire. Nous rappellerons que le contexte initial était pourtant très très simple. Il s'agissait de mettre en œuvre les accords de Minsk. Emmanuel Macron porte donc une responsabilité écrasante, puisqu'il est quand même aux affaires depuis 2017. et que dans ce contexte-là, il était, au nom de la France, garant de ces accords avec Mme Merkel, et qu'il aurait dû, avec elle, mettre la pression sur le clown triste Zelensky pour que celui-ci remplisse ses promesses de campagne. Je rappellerai à nos auditeurs qu'il avait fait campagne sur une réconciliation, sur le droit des populations russophones d'Ukraine de pratiquer leur langue et de pouvoir vivre en toute égalité de droits avec leurs concitoyens ukrainiens de l'Ouest, et que rien de cela n'a été mis en place à partir du moment où il a été élu, encore une fois, avec le financement de Igor Komolovsky, qui, je le rappelle encore une fois, a établi maintenant son quartier général à Tel Aviv. Donc, dans ce contexte-là, on peut effectivement se poser des questions sur cet alignement, ce suivisme, d'autant plus que Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sont censés avoir eu une conversation téléphonique qui a duré 2 heures, et que si on veut vraiment rechercher une solution à cette situation, la première chose à faire, c'est d'arrêter, encore une fois, de fournir le régime kievien en armement. Et lorsqu'on entend effectivement, effectivement une aide alimentaire, une aide humanitaire, on sait très bien que sous couvert humanitaire, il est très facile de faire passer tout un tas d'équipements militaires. Et d'ailleurs, la France a annoncé, même quasi officiellement, qu'elle envoyait ses canons César, qui sont quand même des systèmes relativement sophistiqués. Donc, ce faisant, mettant de l'huile sur le feu, c'est difficile d'imaginer, à la lumière de ces événements objectifs, comment la politique et donc la conduite du gouvernement français dans cette affaire soit de nature à mettre, si je puis dire, une forme de restreinte et appeler une solution diplomatique de la crise actuelle.
Monsieur Beurre, est-ce que vous aussi vous êtes d'accord avec Maître de Volley qui dit que voilà, la solution à envisager pour mettre un terme à cette guerre, c'est de cesser d'alimenter en armement, si vous voulez, Kiev?
Oui, l'OTAN sait très bien qu'elle a perdu la guerre. C'est une évidence. Pour tout expert militaire rationnel, ils savent très bien que la Russie l'a déjà gagné. Je rappellerai que la Russie engage maximum 10% de ses capacités en Ukraine. Parce que lorsqu'on dit que l'armée russe n'a pas les capacités, non, elle dose son intervention par rapport à cela. Je rappellerai que l'aide humanitaire, on la retrouve en vente en Ukraine, c'est-à-dire qu'elle est détournée. L'aide humanitaire, c'est de la corruption. L'Ukraine est l'État le plus corrompu du monde, selon les organisations occidentales en charge de faire un rating de la chose. Donc déjà, la seule chose qui compte en Ukraine, le seul mot qui compte en Ukraine, et je connais bien l'Ukraine pour avoir même fait, avant le Maïdan, j'ai été observateur électoral à Kiev pour les dernières élections, j'ai compris à ce moment-là que la seule chose qui comptait, c'était combien. Quelle que soit, c'était l'opposition ou pas l'opposition, c'est une question qui est d'ordre général en Ukraine. Donc maintenant, la Russie a été très claire. Oui, si on veut trouver une solution à ce conflit, c'est simple, n'intervenez pas dans une affaire qui concerne Kiev et Moscou. Point. S'ils n'interviennent pas, à ce moment-là, il n'y a pas de soutien militaire. La Russie obtient ce qu'elle veut plus rapidement. Et il y a à ce moment-là une situation où la guerre s'arrête et un nouvel ordre politique se met en place. Mais c'est cela que ne veut pas l'OTAN. Parce que l'OTAN, ça voudrait dire qu'elle démontrerait sa faiblesse, qu'elle démontrerait que finalement elle ne protège pas, tellement qu'elle a dit qu'elle allait protéger l'Ukraine. Elle s'est prise à son propre piège, avancé par les Américains d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, ils sont dans une situation, ils n'arrivent pas à se retirer. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Européens, je conclue dessus, je vous rassure, les Européens n'arrivent pas à faire marche arrière alors qu'ils ont fait une erreur. Ils devraient reconnaître leur erreur et laisser se terminer ce qui arrivera de toute façon d'une manière ou d'une autre. Et leur intervention militaire aujourd'hui en Ukraine est responsable des morts aujourd'hui supplémentaires. Et ce sont eux qui devront aller au tribunal et répondre des crimes que vont répondre les militaires et les politiques de la junte de Kiev, qui passeront devant le tribunal, un tribunal spécial qui a été créé d'ailleurs par les Russes et d'autres pays, pour pointer la responsabilité et ne pas laisser les crimes de génocide sans sans qu'ils soient en justice, sans qu'ils soient traînés en justice.
Merci infiniment, M. Fabrice Beurre, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Moscou. Mes vifs remerciements vont également à vous, Maître Arnaud de Volet, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir.
La nouvelle monnaie de réserve mondiale basée sur les ressources. Une nouvelle réalité est en train de se former. Le monde unipolaire est en train de devenir irrévocablement une chose du passé. Un monde multipolaire est en train de prendre forme. C'était quelque chose à voir. Dmitri Medvedev, ancien président russe, atlantiste impénitent, actuel vice-président du Conseil de sécurité russe, a décidé de se débrancher totalement dans un déchaînement égal à la tournée de combat de M. Kinjal, qui a provoqué choc et effroi dans tout l'OTAN. Medvedev a déclaré que les sanctions occidentales, diaboliques, non seulement n'ont pas réussi à paralyser la Russie, mais qu'au contraire, elles reviennent vers l'Occident comme un boomerang. La confiance dans les monnaies de réserve s'estompe comme la brume du matin et abandonner le dollar américain et l'euro n'est plus irréaliste. L'ère des monnaies régionales arrive. Après tout, a-t-il ajouté, qu'ils le veuillent ou non, ils devront négocier un nouvel ordre financier. Et la voie décisive sera alors celle des pays qui ont une économie forte et avancée, des finances publiques saines et un système monétaire fiable. Medvedev a relayé son analyse succincte avant même le jour J, comme dans la date limite fixée par le président Poutine, après laquelle les paiements du gaz russe par les nations inamicales ne seront acceptés qu'en roubles. Le G7, comme on pouvait s'y attendre, avait pris une pause collective. « Nous ne paierons pas », nous signifie les quatre, qui ne sont pas de grands importateurs de gaz russe. Nous, en outre, c'est l'empire du mensonge qui dicte les règles. Quant aux trois qui seront en grande difficulté, non seulement ils sont de grands importateurs, mais ils se trouvent être des perdants de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne, l'Italie et le Japon, qui sont toujours des territoires occupés de facto. L'histoire a l'habitude de jouer des tours pervers. Le déni n'a pas duré longtemps. L'Allemagne a été la première à rompre Scholz, le chétif chancelier a appelé Poutine, qui a dû expliquer l'évidence. Les paiements sont convertis en roubles parce que l'Union européenne a gelé les réserves de change de la Russie en violation flagrante du droit international. Poutine a également exprimé l'espoir que cela ne représente pas une détérioration des conditions contractuelles pour les importateurs européens. Les experts russes et allemands devraient s'asseoir ensemble et discuter des nouvelles conditions. Moscou travaille sur une série de documents définissant le nouvel accord. Essentiellement, cela signifie pas de rouble, pas de gaz. Les contrats deviennent nuls et non avenus dès lors que vous violez la confiance. Les États-Unis et l'Union européenne ont rompu des accords légaux en imposant des sanctions unilatérales et de surcroît ont confisqué les réserves de change d'un pays nucléaire du G20. Les sanctions unilatérales ont rendu les dollars et les euros sans valeur pour la Russie. L'hystérie ne suffit pas. Le problème sera résolu, mais aux conditions de la Russie. Un point, c'est tout. Le ministère des Affaires étrangères avait déjà prévenu que le refus de payer le gaz en roubles entraînerait une grave crise mondiale de non-paiement et de faillite en série au niveau mondial. Une réaction en chaîne infernale de transactions bloquées, de gel des actifs collatéraux et de fermeture de lignes de crédit. La suite des événements est partiellement prévisible. Les entreprises de l'Union européenne recevront le nouvel ensemble de règles. Elles auront le temps d'examiner les documents et de prendre une décision. Celles qui diront non seront automatiquement exclus des livraisons directes de gaz russe, toutes conséquences politico-économiques comprises. Il y aura bien sûr des compromis. Par exemple, un certain nombre de nations de l'Union européenne accepteront d'utiliser des roubles et d'augmenter leurs acquisitions de gaz afin de pouvoir revendre le surplus à leurs voisins et réaliser un bénéfice. Et certains pourraient également décider d'acheter du gaz sur le champ, sur les bourses de l'énergie. La Russie n'impose donc un ultimatum à personne. Tout cela prendra du temps. Un processus continu, avec quelques actions latérales également. La Douma envisage d'étendre le paiement en roubles à d'autres produits essentiels, comme le pétrole, les métaux, le bois, le blé. Cela dépendra de la voracité collective des Chihuahuas de l'Union européenne. Chacun sait que leur hystérie non-stop peut se traduire par une rupture colossale des chaînes d'approvisionnement dans tout l'Occident. Alors que les classes dirigeantes atlantistes sont devenues complètement folles, mais restent concentrées sur la lutte jusqu'au dernier Européen pour extraire toute richesse restante et palpable de l'Union européenne, la Russie joue la carte du calme. Moscou a été plutôt indulgente, en fait, brandissant le spectre d'une absence de gaz au printemps plutôt qu'en hiver. La Banque centrale russe a nationalisé les recettes en devises de tous les grands exportateurs. Il n'y a pas eu de défaut de paiement. Le rouble continue de monter et il est maintenant revenu à peu près au même niveau qu'avant l'opération Z. La Russie reste autosuffisante sur le plan alimentaire. L'hystérie américaine concernant la Russie isolée est risible. Tous les acteurs qui comptent en Eurasie, sans parler des quatre autres pays du BRICS et de la quasi-totalité des pays du Sud, n'ont pas diabolisé et ou sanctionné la Russie. En prime, le dernier oligarque capable d'exercer une influence à Moscou, Anatoly Choubet, a disparu. Il s'agit d'un autre tour de passe-passe historique. L'hystérie des sanctions occidentales a démembré de facto l'oligarchie russe, le projet fétiche de Poutine depuis 2000. Ce que cela implique, c'est le renforcement de l'État russe et la consolidation de la société russe. Nous ne disposons pas encore de tous les faits, mais on peut affirmer qu'après des années d'évaluation minutieuse, Poutine a choisi d'aller jusqu'au bout et de briser le dos de l'Occident en utilisant ce tiercé. Guerre éclair imminente sur le Donbass, laboratoire américain d'armes biologiques, Ukraine travaillant sur des armes nucléaires, comme casus belli. Le gel des réserves de change devait être prévu, notamment parce que la Banque centrale russe a augmenté ses réserves de bons du Trésor américain depuis novembre dernier. Il y a ensuite la possibilité sérieuse que Moscou puisse accéder à des réserves étrangères offshore secrètes, une matrice complexe construite avec l'aide d'initiés chinois. Le passage soudain du dollar et de l'euro au rouble était un acte de judo géoéconomique pur et dur, de niveau olympique. Poutine a incité l'Occident collectif à déclencher son attaque hystérique et démentielle via des sanctions et l'a retourné contre l'adversaire en un seul geste rapide. Et nous voilà tous en train d'essayer d'absorber tant de développements synchronisés qui changent la donne suite à la transformation du dollar en arme de guerre. Si l'on ajoute à cela le programme « pas de rouble, pas d'essence », nous avons ici une énergie de facto liée à l'or. Les Chihuahuas de l'Union européenne et la colonie japonaise devront acheter beaucoup de roubles en or ou acheter beaucoup d'or pour avoir leur gaz. Et il y a mieux. La Russie pourrait réaccrocher le rouble à l'or dans un futur proche. On pourrait passer à 2000 roubles, 1000 roubles, voire 500 roubles pour un gramme d'or. Il est temps d'être souverain. Depuis les sommets des BRICS dans les années 2000, auxquels ont participé Poutine, Hu Jintao et Lula, le saint graal des discussions sur un monde multipolaire a toujours été de savoir comment contourner l'hégémonie du dollar. Cette solution se trouve maintenant sous les yeux de l'ensemble des pays du Sud, sous la forme d'une apparition bénigne arborant un sourire de chat du Cheshire. Le double or, au rouble adossé au pétrole, au gaz, aux minéraux, aux exportations de matières premières. La Banque centrale russe, contrairement à la Fed, ne pratique pas l'assouplissement quantitatif. La Banque centrale russe, contrairement à la Fed, ne pratique pas l'assouplissement quantitatif et n'exporte pas d'inflation toxique vers le reste de la planète. Non seulement la marine russe sécurise toutes les lignes maritimes russes, mais les sous-marins russes à propulsion nucléaire sont capables de surgir partout sur la planète à l'improviste. La Russie est loin, très loin en avance, mettant déjà en œuvre le concept de puissance navale continentale. Décembre 2015, sur le théâtre syrien, a changé la donne stratégique. La 4e division de sous-marins basée en mer Noire est la vedette du spectacle. Les flottes navales russes peuvent désormais employer des missiles calibre dans un espace comprenant l'Europe de l'Est, l'Asie occidentale et l'Asie centrale. La mer Caspienne et la mer Noire, reliées par le canal Don Volga, offrent un espace de manœuvre comparable à celui de la Méditerranée orientale et du Golfe Persique réunis. 6000 km de long, et il n'est même pas nécessaire d'accéder aux eaux chaudes. Cela couvre environ 30 pays. La sphère d'influence traditionnelle de la Russie, les frontières historiques de l'Empire russe et les sphères de rivalité politique énergétique actuelles. Pas étonnant que le Beltway soit furieux. La Russie garantit le transport maritime à travers l'Asie, l'Arctique et l'Europe en tandem avec le réseau ferroviaire EBRI à l'échelle de l'Eurasie. Et enfin, mais pas des moindres, on ne badine pas avec un ours nucléaire. Voilà en substance ce qu'est la politique de puissance pure et dure. Medvedev ne s'est pas vanté lorsqu'il a déclaré que l'ère d'une monnaie de réserve unique était révolue. L'avènement d'une monnaie de réserve mondiale basée sur les ressources signifie en résumé que 13% de la planète ne domineront plus les 87% restants. C'est le Natostan contre l'Eurasie rodu. Bienvenue à la naissance du nouveau système mondial.